incroyable.
Bon, évidemment, ça retient l'attention énormément en ce début d'année et le Canada est dans une position particulière avec un premier ministre qui s'en va et que personne n'écoute vraiment, avec un premier ministre de l'Ontario qui s'est improvisé Capitaine Canada, qui essaye d'offrir du contrat, qui négocie et comment, on ne sait pas trop. Mais une chose est sûre, Donald Trump semble prendre au sérieux maintenant sa blague de l'annexion du Canada aux États-Unis. Coudon, mettons que ça arrive, là. Qu'est-ce qui arrive concrètement? C'est sur cette base de questionnement-là qu'on a demandé à Francis Gosselin, docteur en économie, de réfléchir un peu. Salut, Francis.
Salut.
Comment ça va?
Très bien.
Hey, bonne année 2025. T'as fait un petit peu de radio à Cube dans le temps des fêtes. Comment t'as trouvé ça?
Je ne sais pas si j'ai été à la hauteur de Richard Martineau. Faudra demander au principal intéressé.
T'as-tu parlé des woke?
J'ai moins que Richard, certainement.
Faut dire que la barre était haute, là, en quantité.
Ouais, effectivement. Mais non, c'était intéressant. Puis moi, je m'en allais faire de la radio de Noël, comme on appelle ça. Donc, la radio où j'aurais parlé du prix du papier d'emballage, puis tu sais, de comment se portent les sapins de Noël.
Les
et
classiques,
ça.
Hein? Et, l'actualité t'a rattrapé.
Dans ma première journée d'animation, Chrystia Freeland démissionne, la mise à jour économique, le remaniement, le bordel. Donc, ça a été vraiment une période des fêtes haute en couleur en matière d'actualité. Donc, grand plaisir chez nos amis du 99.5.
T'as pas manqué de gravy, comme qu'on dit, pour jaser d'actualité à radio.
Et non.
Hey, Francis, ben, posons-nous la question. Là, qu'est-ce qui arrive si on est annexé aux États-Unis? Concrètement, on va-tu être annexé aux États-Unis?
On va pas être annexé aux États-Unis. Il n'y a aucun scénario, d'aucune façon, de référendum ou à fait, je veux dire, puis militaire. Tout ceci est du parfait délire. Là. Puis je veux dire, tôt ou tard, là, il y a comme la, la Californie qui brûle. Là. Je ne sais pas si j'étais un Américain, peut-être que je demanderais à ce que mon président s'occupe de ça, là, au lieu de rêvasser.
Non, il y a
là,
du temps. C'est le 20 janvier qui est président.
Groenland, ben c'est ça. Là, comme il y a encore un petit break quelques jours, mais là, je veux dire, la réalité va le rattraper. Ouais. J'ai l'impression que c'est un monsieur qui s'emmerde et qui fait comme des niaiseries en attendant. Là. Mais tu sais, le 20 janvier, il va falloir qu'il travaille, M. Trump. Puis c'est pas l'annexion du Canada, là, le premier élément sur son item. Il a promis beaucoup de choses pendant la campagne, dont pas celle-là. Et ça ne va donc, c'est certain, pas arriver. Là.
Fait que dans les faits, si on sépare, mettons que ça arrive, là, on va faire un peu de réalité-fiction. Si on est annexé aux États-Unis du jour au lendemain, fondamentalement, là, juste au niveau de l'économie, c'est-tu positif ou négatif pour le Canada?
Ben là, tu sais, on est dans un rêve réveillé, là. Monsieur Trump, depuis quelques semaines, promet des tarifs, là, puis toutes sortes de mesures de rétorsion, là, etc. Donc, c'est sûr que si on était annexé ou si on fusionnait, là, je sais pas si c'est une fusion-acquisition ou, tu sais, on sait pas trop quel format ça prendrait, mais il n'y aurait pas les tarifs. Ça serait déjà la bonne nouvelle. Hein. On serait le même pays, donc généralement, tu mets pas des tarifs au sein d'un même pays. On paierait probablement beaucoup moins d'impôts. Donc, pour ceux et celles là, qui nous écoutent, là, qui trouvent que c'est fatigant au Québec, ben, il y aurait peut-être un peu gain de cause. Et évidemment, les États-Unis, depuis quelques années, là, nous pètent la gueule en matière de croissance économique puis de richesse. On peut penser qu'en étant en faisant partie du même pays, on pourrait un peu surfer sur cette vague-là. Puis plus de richesse, ben, c'est plus de services, plus de plein d'affaires. Fait que là-dessus, il y a du bon. Mais après, concrètement, on perdrait notre beau dollar là, avec nos pièces en métal puis nos dollars
de couleur.
De couleur là, que les Américains nous envient, je pense, parfois. On paierait aussi beaucoup plus d'intérêt sur les hypothèques. Hein. Vous le savez, le taux directeur actuellement aux États-Unis est beaucoup plus élevé qu'au Canada, juste en dessous des 5 % et on est à 3,25 ici. Donc, du jour au lendemain, j'imagine qu'il faudrait renégocier tout ça. Par contre, on pourrait peut-être bénéficier du système américain où on prend des hypothèques genre sur 20 ans ou 30 ans. Fait que ça, c'est un avantage qui ne nous est pas offert. Puis, il y aurait beaucoup plus de concurrence en matière bancaire. Ça serait une bonne affaire. Ce qui est un peu plus négatif, c'est qu'on perdrait le contrôle sur nos ressources. Là. Fait que là, tu sais, je le dis souvent, là, les 22 fermiers de la Beauce qui ne veulent pas de pipeline, là, Donald Trump, il n'y aura pas beaucoup de...
Le pipeline passerait là, là.
Pipeline, il va passer ou Donald, il dit qu'il va passer. Là, tu sais, puis si tu n'es pas content, déménage. Là, tu sais, fait que, puis de même pour la forêt, de même pour les mines, de même pour tout ça. Puis après ça, il y a plein d'autres conséquences. La dette, on prendrait sûrement une part de la dette américaine. les prix de l'immobilier exploseraient encore plus qu'actuellement parce que là, tu as tous ces Américains qui voudraient vivre chez nous.
J'imagine que notre dollar, ça serait pas un pour un à court terme, là?
Je sais pas comment ça se passe. Tu te rappelles, au tournant de l'année 2000, les Européens ont migré vers l'euro.
Ouais.
Fait qu'à un moment donné, il y a eu comme une date où ils ont fixé le taux de change du Deutsche Mark, du franc français.
S'ils le fixent aujourd'hui, c'est pas une bonne nouvelle, là.
Ouais, mais en même temps, tu sais, peu importe à quel niveau on le fixe, rapidement, il y aurait comme un effet de rattrapage, là, tu sais, qui se ferait une fois qu'on serait fusionné. Le problème, évidemment, quand tu fais partie d'un grand État, c'est que, mettons, que ton économie performe pas, tu es quand même sujet aux décisions du central, là, de Washington, de la Fed et tout. Donc, on perdrait un levier. Puis, la dernière affaire, c'est que c'est pas économique directement, mais on serait détesté partout où on irait, comme les Américains. Fait que quand tu vas à Florence, tu te craches dessus. Quand tu vas,
c'est fou l'avantage
au Japon,
du passeport canadien. Hein? Quand tu te promènes à l'étranger puis qu'ils ne savent pas trop si tu entends, mettons, parler anglais, par exemple, ils vont te poser la question. Viens-tu du côté des États-Unis ou tu viens du côté du Canada? Et l'attitude change terriblement rapidement.
On est sympathique à l'extérieur.
La perception
les gens,
est très bonne.
Les gens, ils mettent le drapeau canadien sur leur back-sac. Il y a comme un petit côté, genre, ne me tue pas, s'il te plaît. Là, genre, je suis un casque bleu. Là, fait que non, fait que ça, on perdrait ça. C'est comme je dis, c'est pas directement économique, mais ça a des incidences, là, c'est sûr.
Francis, on en parlait tantôt autour de la table, puis on se disait... en fait, j'essayais de voir le côté positif de ce qui se passe présentement, puis ça force un peu une conversation sur... en fait, c'est un peu comme un vieux couple qui s'en va voir une thérapie, là, parce que faut revoir les relations entre les États-Unis et le Canada, puis ça va forcer cette conversation-là. Déjà, il y a Doug Ford qui arrive avec une proposition de dire « faut revoir nos deals économiques » et ainsi de suite. Il y a quand même ce côté-là positif où il y a des choses qu'on peut peut-être changer pour le mieux de nos deux pays maintenant que la conversation est ouverte puis que ça va devenir un genre de négociation, là.
Oui, effectivement. Puis moi, je pense qu'à travers tout ça, là, Donald Trump, il fait son petit spectacle, mais indirectement, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, il veut faire affaire avec le Canada. Là.
Ouais.
S'il veut nous annexer, c'est parce qu'il ne veut pas nous détruire. Là.
Parce
il
qu'on
veut,
a une valeur.
Il veut, nous, il veut nos ressources, il veut notre économie, il veut notre force, il veut notre intelligence. Fait que tu sais, je me dis, sans devenir un État, est-ce qu'on peut y vendre de quoi? Tu sais, puis M. Trump, il fait des deals, comme il dit. Là. C'est un deal maker. Fait que faisons un deal. Mais c'est sûr que pour ça, il va falloir un peu piler sur notre orgueil, puis des fois un peu sur certaines de nos industries. Là, tu sais, fait, déjà, actuellement, là, ce qu'on appelle les règles d'origine, là, d'où vient le taux. Là, ben, il y a des morceaux qui ont été faits au Japon, des morceaux. On n'a pas les mêmes règles qu'aux États-Unis actuellement. Fait que c'est sûr qu'il faudrait faire un gros ménage là-dessus. Puis peut-être que les Canadiens, on trouverait qu'on y va un petit peu, on est un petit peu relax là, en termes de règles d'origine. Les Américains sont très, très, très rigoureux là-dessus. Il pourrait y avoir certaines industries manufacturières qui souffrirait de ça. Première affaire. Ensuite, bon, toutes les barrières tarifaires là, et non tarifaires, fait que tu sais, là, puis là, encore une fois, les agriculteurs du Québec puis du Canada, là, tu sais, qui sont très, très protégés, puis pour des bonnes raisons, là, tu sais, on veut avoir une industrie agricole florissante, on veut avoir de l'indépendance alimentaire, mais ça reste que si on était prêt à ouvrir ça pour le bien de tout le pays, sacrifiant nos agriculteurs, c'est sûr que M. Trump verrait ça d'un bon oeil, puis c'est M. Trump en avait déjà parlé là, lors de la dernière négociation, évidemment, genre éliminer la gestion de l'offre. Là, ça veut dire, encore une fois, enlever les quotas laitiers, enlever toute la gestion de l'offre dans les œufs, dans le poulet. Encore une fois, ça ferait mal à certaines personnes dans l'agriculture, mais ça serait bénéfique. Est-ce qu'on pourrait avoir un service douanier? C'est-à-dire, on enlève carrément la frontière. Comme en Europe, là, je ne sais pas si vous êtes allé en Europe récemment, là, mais tu sais, tu vas de la France en Allemagne. Là,
t'arrêtes pas nulle part. Là.
Tu continues à rouler ton. Il y a encore le vieux poste frontalier comme un vestige d'une autre époque. On pourrait avoir ça, mais ça voudrait dire que tout le monde qui rentre au Canada, il passe par un processus équivalent au processus américain, très rigoureux. Là.
Ce serait à nous autres de s'ajuster à eux autres là, sous ce barème-là. Là.
Il pourrait y avoir comme une autorité. Continental, mais tu sais, les Américains auraient finalement, comme tu dis, toujours le dernier mot. Il y aurait évidemment des normes industrielles communes, mais là, encore une fois, tu sais, on est beaucoup plus rigoureux au Québec, au Canada, par rapport à l'environnement, par rapport au droit du travail qu'ils ne le sont. Je ne sais pas si le monde a envie d'avoir des salaires minimums à 8 $ de l'heure, puis d'avoir des rejets dans les cours d'eau, comme c'est plus facile de l'avoir aux États-Unis, mais si on normalisait ça, encore une fois, je suis super cynique en vous disant ça, mais ça aiderait. Après ça, est-ce qu'on pourrait normaliser le marché du travail? Là, comme, tu sais, ce serait intéressant peut-être pour des jeunes jeunes là, qui pourraient venir des États-Unis travailler l'été à Montréal, dans les hôtels, dans les restaurants, et vice-versa, des jeunes Canadiens aller travailler à Portland, puis à Burlington, puis à toutes ces places-là, d'avoir dans le fond une pleine fluidité du marché du travail. Le marché aérien, le marché des télécommunications,
et
le
mon
marché
Dieu,
des
oui.
banques, on pourrait le libéraliser. Puis ça, honnêtement, encore une fois, il y aurait des perdants, les télécoms, les banques, les télécoms ne seraient pas contents,
Ils
mais
perdraient de
écoutez,
l'argent avec nos frais
on paye
d'itinérance, là.
cher comme Canadien pour ces services-là. Il n'y a pas beaucoup de concurrence. Il y a deux, trois compagnies aériennes, cinq banques. C'est sûr que si on ouvrait ces trois marchés-là, largement demain matin, les Américains gagneraient, puis les consommateurs canadiens gagneraient, mais au détriment de la profitabilité de ces grandes business-là. Fait qu'en tout cas, il y a plein d'affaires qu'on peut faire, c'est ça mon point. Puis là, je vous fais une liste un peu longue avec des gagnants et des perdants, mais il me semble qu'on pourrait choisir une ou deux des affaires dans cette liste-là. Puis peut-être, encore une fois, là, envisager ce serait quoi les conséquences, mais la pire situation, c'est celle actuelle où, par exemple, il y aurait des tarifs de 25% sur tout, puis là, tout le monde est perdant. Fait qu'à ce titre-là, c'est sûr que c'était ingrat, mais je préfère choisir deux, trois perdants au bénéfice de tous les Canadiens que de faire perdre tous les Canadiens. Fait que c'est des décisions vraiment difficiles pour nos politiciens actuellement.
Puis Francis, l'histoire des tarifs, là, on sait qu'on est en train de regarder, nous autres, une liste de produits qu'on pourrait surtaxer de notre côté.
Comme on l'avait déjà fait au premier mandat de Trump.
Ça risque de ne pas être suffisant dans la balance, là, la journée où tout ça se concrétise, là.
Non, ben effectivement, puis tu sais, je pense pas que le jus d'orange, là, ça va faire changer complètement la balance. Là, il y a comme trois, quatre entrepreneurs de Floride qui vont venir pleurer à Mar-a-Lago, mais je veux dire, tu sais, par rapport à Elon Musk puis plein d'autres milliardaires, ça aura pas un grand pas dans la balance. Il y avait le Bourbon, là, du Tennessee.
Ouais.
Une couple de places comme ça, on pourrait cibler des produits, mais je pense que c'est un peu niaiseux. J'ai quand même lu sur Internet, plutôt aujourd'hui, le maire de la ville de Prévost dans les Laurentides. Je sais pas si vous avez vu ça.
Non.
M. Germain, je pense, il disait que lui, au lieu d'attaquer les États-Unis, on devrait faire des petits shenanigans d'autres sortes, genre enlever les tarifs qu'on a mis sur les autos chinoises.
Oh
puis là,
my
ce que ça veut dire, c'est que
God!
demain matin, tu as des autos électriques à 25 000 $ à tous les coins de rue du Canada.
Le plus gros compétiteur de Tesla.
Très bon pour les consommateurs, vraiment mauvais pour Tesla, vraiment mauvais pour toute l'industrie automobile américaine. Puis ça ferait mal parce que, de mémoire, aux États-Unis, il y a quelques millions de personnes qui travaillent pour l'industrie automobile. Ça ferait mal à notre filière auto à nous, mais ça ferait en sorte que les consommateurs seraient très gagnants avec des véhicules abordables de haute qualité. Et ça ferait évidemment très mal aux États-Unis qui se retrouveraient là, un peu dans une situation difficile. Fait que ça pourrait prendre des décisions comme ça qui ne touchent pas directement les États-Unis, c'est-à-dire pas de faire de la rétaliation, mais bien des stratagèmes. Encore une fois, on n'est pas rendu là. On va voir ce que M. Trump décide le 20 janvier, puis on va s'adapter, je pense. Je pense pas que c'est la peine là, de faire de l'insomnie à propos de tout ça pour l'instant.
Si on retourne au chapitre de la politique fiction, je te donne l'opportunité, soit, je sais pas moi, de faire rêver les souverainistes ou de péter leur bulle. Quelle est la meilleure alternative économique pour un Québec si jamais les États-Unis annexent le Canada? C'est-tu de faire partie de l'annexion ou de devenir souverain, finalement?
C'est une bonne, très bonne question, honnêtement. Ce qui est en train actuellement, drôlement, d'arriver, c'est que le Canada se découvre une fibre nationaliste.
Ben oui.
Incroyable, hein, ouais.
Et là, je me demande, est-ce que ça, c'est bon ou pas bon pour les souverainistes?
Ouais.
Puis on a vu Jean-François Lisée, Pierre Saint-Paul-Plamondon, justement, de ces souverainistes québécois là, qui donnent des conseils aux Canadiens. Là. J'ai l'impression de vivre dans un espèce de rêve là, un peu.
C'est un monde parallèle. Ou
genre Jean-François Lisée coach Doug Ford sur comment être un bon indépendantiste face à une menace étrangère. Je ne sais plus ce qui se passe, mais chose certaine, ça pourrait nous emmerder beaucoup économiquement, ça pourrait faire mal à certaines industries, mais à défaut d'être agréable, c'est probablement une des périodes politiques les plus intéressantes
ouais.
que j'ai vécu de ma vie, moi, comme commentateur, comme observateur de tout ça. Fait que je me réjouis, entre guillemets, en me disant mon cerveau est stimulé par ces folies part et d'autre de la frontière.
Et tant mieux si la fibre de la fierté canadienne renaît. On en a bien besoin après une défaite contre la Lettonie. Hey, merci, Francis!
Ça donne envie d'écouter Tragically Hip, tout ça, mais merci. Merci à vous.
Francis Gosselin, docteur en économie, que vous pouvez voir du côté de LCN. Si jamais vous vous rendez à Montréal, le 99.5 l'utilise également. Il a remplacé Richard Martineau pendant le temps des fêtes. Il a parlé un petit peu moins des woke, mais en même temps, la barre était quand même assez élevée là, au niveau de la quantité.
Il y avait
quantité.
Des standards qui avaient été établis déjà.
Ouais, fait que ça reste de la théorie, mais ça reste quand même intéressant à discuter. Et ça va être une année politique fascinante, ça, c'est sûr et certain.
C'est toute l'observation aussi au fait qu'actuellement, il y a des provinces qui travaillent plus ensemble que jamais.
Mais oui.
Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Reste à voir si c'est pour un bref laps de temps, puis si à un moment donné, ça sera chacun pour soi. Mais disons qu'effectivement, si on tombe pas dans « Oh mon Dieu, c'est quoi le pire qui pourrait arriver? » Je pense qu'on peut avoir du « fun » entre guillemets à suivre ce qui s'en vient dans les prochaines semaines.
Hey, 17h33, est-ce qu'on jette un dernier coup d'œil à l'actualité? Y a-t-il des choses qu'il faut savoir en cette fin de journée?
Je t'avouerai qu'on a pas mal fait.